Chapitre 6. L'éveil de la Vivacia. On porta le capitaine à bord sur une litière. C'est ce spectacle qui serra le cœur de Brashen et lui fit soudain monter les larmes aux yeux. Au moment où il vit la forme inerte sous les draps de toile, la vérité toute nue lui apparut. Son commandant remontait sur la Vivacia pour mourir. Son secret espoir qu'Efron Vestrit ne fût pas aussi mal qu'on le disait, qu'il se remettrait grâce à l'air marin et au pont de son navire, n'était qu'un rêve d'enfant naïf. Il se tint respectueusement à l'écart pendant que Kyle surveillait la montée de la litière sur la passerelle d'embarquement. Les hommes la déposèrent sous le deck que Brashen avait improvisé. Althea, aussi pâle que si elle était sculptée dans l'ivoire, l'y attendait. La famille suivait le capitaine en file indienne, tels des moutons égarés. Ses membres prirent place autour de la litière d'Efron Vestrit, comme s'ils eussent été les invités d'un banquet et lui la table dressée. Son épouse et sa fille aînée avaient une expression à la fois affolée et ravagée. Les enfants, parmi lesquels un garçon plus âgé que les deux autres, paraissaient surtout un peu perdus. Kyle restait en retrait, l'air désapprobateur, comme s'il examinait une voile mal réparée ou le mauvais arrimage d'une cargaison. Au bout de quelques minutes, Althea sembla émerger de sa stupeur. Elle s'en alla discrètement et revint avec une carafe d'eau et une timbale, puis elle s'agenouilla sur le pont au chevet de son père et lui offrit à boire. S'agitant pour la première fois sous les yeux de Brashen, le capitaine tourna la tête et réussit à prendre une petite gorgée d'eau. Puis, d'un geste vague de sa main décharnée, il rappela à tous qu'il fallait l'ôter de sa litière et le déposer sur le pont de son navire. À ce signal, Brashen s'avança sans même réfléchir, comme s'il avait si souvent réagi aux ordres de son commandant. Il entrevit le froncement de sourcils de Kyle avant de s'accroupir près de la litière d'Efron Vestrit. « Si vous permettez, capitaine, » dit-il à mi-voix. Après quoi il attendit le petit hochement de tête qui lui indiqua que son commandant l'avait reconnu et acceptait ses services. Aussitôt, Althea s'approcha et passa les bras sous les jambes squelettiques de son père, tandis que Brashen se chargeait du reste du corps du vieillard, vieillard qui n'était pas si lourd et qui n'était pas non plus très âgé, songea Brashen en posant doucement le corps émacié sur le plancher nu du pont. Au lieu de se plaindre de la dureté des planches, le capitaine soupira, comme si une grande souffrance venait de lui être enlevée. Il battit des paupières, et son regard se dirigea vers Althea. Une trace de son ancien éclat y était visible lorsqu'il lui ordonna doucement « Althea, la cheville de la figure de proue. » Les yeux de sa fille s'agrandirent un instant dans une sorte d'horreur. Puis elle carra les épaules, se leva pour lui obéir et s'éloigna de la litière, les lèvres si serrées qu'elles en étaient blanches. Instinctivement, Brashen commença à se reculer. Le capitaine Vestrit n'aurait pas demandé la cheville de la figure de proue s'il n'avait pas senti la mort toute proche. Le temps était venu qu'il demeurât seul avec sa famille. Mais comme Brashen se retirait, il sentit soudain une main étonnamment ferme lui saisir le poignet. Les longs doigts du capitaine s'enfoncèrent dans sa chair et le forcèrent à revenir. Il émanait de lui une forte odeur de mort, mais Brashen, sans broncher, s'approcha pour entendre ce qu'il disait. « Accompagne-la, fils. Elle va avoir besoin de ton aide. Reste auprès d'elle dans cette épreuve. » Sa voix n'était qu'un murmure rauque. De la tête, Brashen indiqua qu'il avait compris et le capitaine Vestrit le laissa aller. Mais alors qu'il se redressait, le mourant reprit. « Tu as été un bon marin, Brashen. » Il s'exprimait à présent clairement et d'une voix singulièrement forte, comme s'il désirait que tous et pas seulement sa famille entendissent ses propos. Il inspira péniblement. « Je n'ai à me plaindre ni de toi, ni de ton travail. » Nouvelle inspiration. « Si je pouvais encore naviguer,
C'est toi que je prendrai comme second. »
Sur les derniers mots, sa voix se cassa et se transforma en sifflement. Ses yeux laissèrent Brashen pour se porter sans hésitation sur Kyle, qui n'avait pas quitté sa mine renfrognée. Avec difficulté, le vieux capitaine prit une goulée d'air.
« Mais je ne naviguerai plus. La vivacia ne m'appartiendra plus. »
Ses lèvres bleuissaient. Malgré tous ses efforts, il ne parvenait plus à reprendre son souffle. Il serra le poing et fit un geste violent qui aurait été incompréhensible pour tout autre, mais Brashen se releva d'un bond et se rua vers la proue pour ramener Althea d'urgence. Que la figure de proue recela une cheville n'était connue que de quelques personnes. Et Ephron l'avait confié à Brashen peu après l'avoir nommé second. Dans les boucles abondantes de la figure se dissimulait un crochet qui, une fois ouvert, permettait de sortir une longue cheville du même bois gris soyeux que la sculpture. Ce n'était pas une nécessité, mais la croyance voulait que si le mourant tenait cette cheville au moment où sa vie s'échappait, le navire s'imprégnait davantage de son savoir et de son essence. Ephron l'avait montré à Brashen, et lui avait indiqué comment l'extraire de sa cachette, de façon que, s'il lui arrivait un accident lors d'une catastrophe, son second pût lui apporter le morceau de bois même pendant ses derniers instants. C'était là une tâche que Brashen avait souhaité avec ferveur n'avoir jamais à exécuter. Il découvrit Althea pratiquement suspendue au beau pré, la tête en bas, alors qu'elle s'évertuait à sortir la cheville de son logement. Sans un mot, il se pencha au-dessus du bastingage, la saisit par les hanches et la fit descendre de façon à lui faciliter la manœuvre.
« Merci, » grogna-t-elle en extrayant la cheville, et là-dessus, Brashen la remonta sans effort et la déposa sur le pont.
Elle se précipita aussitôt vers son père, le précieux morceau de bois serré dans le poing et Brashen sur les talons. Il était temps. L'agonie d'Ephron Vestrit n'allait pas être agréable. Au lieu de fermer les yeux et de partir en paix, il luttait contre la mort, comme sa vie entière il avait lutté contre tout ce qui s'opposait à lui. Althea lui tendit la cheville et il s'en empara comme si elle devait le sauver.
« Je me noie, » fit-il d'une voix étranglée, « je me noie sur un pont au sec. »
Pendant quelque temps, l'étrange tableau demeura figé. Althea et son père tenaient chacun une extrémité de la cheville. Le visage ravagé de la jeune fille était sillonné de larmes, ses cheveux emmêlés collaient à ses joues, et ses yeux grands ouverts, à l'expression concentrée et pleine de tourments, plongeaient dans le regard noir de son père où il se réfléchissait. Elle ne pouvait plus rien pour lui, elle le savait, mais elle ne faiblissait pas. La main libre d'Ephron tâtonna le pont comme s'il cherchait une prise sur les planches poncées. Avec un gargouillis, il parvint à inspirer encore une fois en s'étouffant. Une écume rouge apparaissait au coin de sa bouche. D'autres membres de la famille se rapprochèrent. La sœur aînée s'agrippait éperdument à sa mère, muette de chagrin, mais la mère lui parlait doucement dans les cheveux tout en la serrant contre elle. La gamine pleurait, prise d'une sorte de terreur, et se raccrochait à son petit frère qui paraissait perdu. Le petit-fils aîné du commandant se tenait en retrait de sa famille, le visage pâle et fermé comme lorsqu'on supporte une grande douleur. Kyle se trouvait au pied du mourant, les bras croisés, et Brashen n'avait aucune idée des pensées que cachait cette pose immobile. Un second cercle s'était formé à distance respectueuse du dais. L'équipage, visage de marbre, s'était réuni, le chapeau à la main, pour assister à la mort de son capitaine.
« Althea !»
fit soudain l'épouse du commandant à sa fille. En même temps, elle poussa son aîné vers leur père.
« Il le faut, » dit-elle d'une voix basse, d'un ton bizarre. « Il le faut, tu le sais bien. »
Elle s'exprimait avec une étrange résolution, comme si elle s'astreignait à exécuter une corvée des plus pénibles. L'expression de sa fille aînée, Kefria, oui, c'est ainsi qu'elle s'appelait, paraissait un mélange de honte et de défi. Elle se laissa brusquement tomber à genoux à côté de sa sœur, puis tendit une main pâle et tremblante. Brashen crut qu'elle voulait toucher son père, mais non. Elle saisit fermement la cheville entre les mains d'Althea et du capitaine.
à l'instant où, en s'emparant du morceau de bois au-dessus de la main d'Althea, Kefria s'appropriait indéniablement le navire. Sa mère l'appuya à voix haute.
« Althea, lâche la cheville. Le navire appartient à ta sœur par droit d'ordre de naissance et par la volonté de ton père. »
Elle s'exprimait d'une voix tremblante mais claire. La jeune fille, l'air incrédule, suivit des yeux le bras dont la main tenait la cheville jusqu'au visage de sa sœur. « Kefria ? » fit-elle égarée. « Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» La femme prit une mine incertaine et jeta un coup d'œil à sa mère.
« Si !»
déclara Ronica Vestrit avec violence.
« Il doit en être ainsi, Althea. Il doit en être ainsi pour notre bien à tous. »«
Papa !»
fit Althea d'une voix brisée. Les yeux noirs de son père ne l'avaient pas quitté. Il ouvrit la bouche, ses lèvres remuèrent et il prononça une dernière phrase.
« Lâche la cheville. »
Brachen avait autrefois travaillé sur un navire dont le second se servait un peu trop de l'épissoir. Il l'employait surtout à frapper par derrière les marins qui, selon lui, ne s'appliquaient pas assez à la tâche. Bien des fois, et il s'en serait volontiers passé, Brachen avait vu l'expression de l'homme à l'instant où l'outil s'abattait sur l'arrière de son crâne, où la douleur se transformait en inconscience. Althea eut la même expression en entendant les paroles de son père. Ses doigts se détachèrent de la cheville et sa main retomba, mais s'arrêta pour saisir le bras décharné de son père, auquel elle s'agrippa comme un marin à un débris de son navire lors d'une tempête. Elle ne regarda ni sa mère ni sa sœur. Elle maintint simplement sa prise sur le bras de son père qui hoquetait, la bouche grande ouverte, tel un poisson hors de l'eau.
« Papa !»
murmura de nouveau Althea. Le dos de son père s'arqua et sa poitrine s'enfla de l'effort qu'il faisait pour trouver de l'air. Sa tête roula et il fit face à sa fille avant de retomber lourdement sur le pont. La longue lutte était terminée. L'ultime lueur de vie et de combativité quitta soudain son regard. Son corps se détendit flasque sur le pont, comme s'il se fondait au bois. Sa main lâcha la cheville. Tandis que sa sœur Kefria se redressait, Althea s'effondra en avant, la tête sur la poitrine de son père, et là, sans vergogne, elle se laissa aller à pleurer et à gémir d'une voix désespérée. Aussi ne vit-elle pas ce dont Brachen fut témoin. Kefria, une fois debout, remit la cheville à son époux, qui l'accepta, sous le regard effaré de Brachen. Puis, Kyle s'éloigna, le précieux morceau de bois à la main, comme s'il avait réellement le droit de le détenir. L'espace d'un instant, Brachen faillit le suivre, mais il se ravisa. Il préférait ne pas être témoin de ce qui allait se passer. Avec ou sans cheville, le navire allait s'éveiller. Brachen avait déjà l'impression de sentir une différence, et la remise en place de la cheville ne ferait que hâter le processus. Mais la promesse qu'il avait faite à son capitaine prenait désormais un sens nouveau.
« Accompagne-la, fils. Elle va avoir besoin de ton aide. Reste auprès d'elle dans cette épreuve. »
Le capitaine Vestrit ne parlait pas de la cheville ni de sa propre mort. Le cœur serré, Brachen s'efforça de déterminer ce à quoi sa promesse l'engageait. Des mains se posèrent sur les épaules d'Althea, qui s'écarta sans chercher à savoir à qui elles appartenaient. En l'espace de quelques instants, elle avait perdu son père et la Vivacia. Elle aurait préféré perdre la vie, même si elle ne mesurait pas encore toute sa douleur. « Ce n'était pas juste, » se disait-elle stupidement. « Il ne devrait se produire qu'un seul événement inconcevable à la fois. Elle aurait alors trouvé le moyen de les affronter l'un après l'autre. » Mais dès qu'elle songeait à la mort de son père, au moment où elle était sur le point d'en comprendre l'ampleur, la perte du navire prenait soudain toute la place dans son esprit. Cependant, elle ne se donnait pas le droit d'y penser à côté de la dépouille de son père,
car elle serait alors obligée de se demander comment cet homme qu'elle idolâtrait avait pu la trahir ainsi. Or, si le chagrin l'accablait, elle redoutait bien davantage sa propre colère qui risquait de la consumer entièrement et de ne laisser d'elle que cendre au vent. Les mains revinrent se poser sur ses épaules voûtées et les agrippèrent fermement. « Allez-vous-en, Brachen, » dit-elle d'une voix sans énergie. La volonté lui fit défaut et elle ne put même pas hausser les épaules pour se libérer. La poigne tiède et solide évoquait trop celle de son père. Parfois, alors qu'elle était à la barre, il montait sur le pont. Il était capable, quand il le désirait, de se déplacer sans plus de bruit qu'un fantôme, et tout l'équipage le savait. Il n'ignorait pas non plus que nul ne pouvait prévoir quand le capitaine allait apparaître en silence et, sans rien dire, observer d'un œil exercé le travail de l'un ou de l'autre. Althea se tenait au gouvernail, les paumes sur la roue, conservant un cap fixe, et ne s'apercevait de sa présence qu'à l'instant où elle sentait le contact ferme et approbateur de ses mains sur ses épaules. Ensuite, il s'éloignait sans bruit, ou bien il allumait sa pipe et observait la nuit et la mer et sa fille qui pilotait son navire entre les deux. Curieusement, ce souvenir rendit un peu de vigueur à Althea. Jusque-là aiguë, sa douleur se transforma en un battement sourd. Elle redressa le dos, carra les épaules. Elle n'y comprenait rien, ni comment son père avait pu mourir et la laisser seule, ni surtout comment il avait pu lui arracher le navire pour le donner à sa sœur. Mais vous savez, il aboyait souvent des ordres et je n'en percevais pas le sens. Mais si j'y obéissais aussitôt, tout devenait clair. Tout devenait toujours clair. Elle se retourna en s'attendant à voir Brachen. Mais non. C'était Yémin qui se trouvait derrière elle. Elle en fut étonnée et presque furieuse. Qui était cet enfant pour oser la toucher aussi familièrement, sans parler de ce pâle fantôme du sourire de son père qu'il lui adressait? Il ajouta à mi-voix, « Je suis sûr que cela reviendra, tante Althea, car accepter la tragédie et la déception est la volonté non seulement de votre père, mais aussi de ça. Si nous supportons avec joie ce qu'il nous envoie, il nous récompense toujours. »
« Remballe tes discours !» répondit-elle violemment d'une voix grondante. « Comment avait-il l'audace de lui servir des platitudes en cet instant, ce fils de Kyle qui allait s'emparer de tout ce qu'elle avait perdu ? Naturellement, ce sort ne devait pas être difficile à supporter pour lui. » L'air effaré de l'enfant faillit la faire éclater de rire. Il ôta les mains des épaules de la jeune fille et recula d'un pas.
« Althea ! »
lança Runica d'un ton à la fois bouleversé et furieux. Althea essuya ses larmes du revers de sa manche et soutint le regard plein de reproches de sa mère.
« Ne croyez pas que j'ignore qui a eu l'idée de faire de Kefria l'héritière du navire !»
lui dit-elle avec emportement.
« Oh, Althea !»
s'exclama Kefria avec une peine qui paraissait presque authentique. Le chagrin et la consternation qui se peignaient sur son visage faillit faire fondre la jeune fille. Elles étaient si proches autrefois. Mais à cet instant, Kyle arriva au milieu d'elle et annonça d'une voix furieuse.
« Quelque chose ne va pas. La cheville ne rentre pas dans la figure de proue. »
Tout le monde le dévisagea. Son irritation et son impatience contrastaient trop avec la pitoyable dépouille étendue sur le pont. Il y eut un moment de silence. Puis Kyle eut l'élégance de prendre une expression honteuse. Il se tenait la cheville gris-argent dans la main et jetait des coups d'œil tout autour de lui, comme s'il ne savait où poser le regard. Althea prit une inspiration longue et tremblante, mais avant qu'elle pût dire un mot, elle entendit la voix de Brachen dégoulinante d'ironie.
« Vous ignorez peut-être qu'il faut un membre du sang de la famille pour éveiller une vive nef ?»
On eût dit qu'il se tenait au milieu d'un champ pendant un orage et appelait la foudre à tomber sur lui. Le visage de Kyle se convulsa de rage et rougit intensément.
« Qu'est-ce qui vous donne le droit de parler ainsi, chien ? Je vous ferai chasser de ce navire !»«
Je n'en doute pas, » répliqua Brachen d'un ton calme, « mais pas avant que j'aie rendu mon ultime service à mon capitaine. » Il s'est exprimé très clairement pour un homme à l'agonie.
Reste auprès d'elle dans cette épreuve, m'a-t-il dit. Et vous n'avez sûrement pas manqué de l'entendre? Je compte lui obéir. Remettez la cheville à Althea, qu'au moins l'éveil du navire lui revienne.
Il ne sait jamais quand se taire. C'était la principale critique du capitaine Vestrit à l'encontre de son jeune second. Mais on sentait toujours de l'admiration et du respect dans sa voix, ce qu'Althea avait trouvé bizarre jusque-là. À présent, elle comprenait. Dépenaillé comme tout matelot à la fin d'un long voyage, il faisait front à l'homme qui avait commandé le navire et qui continuerait sans doute à le commander. Il avait été publiquement congédié et n'avait pas bronché. Althea savait que Kyle n'accéderait jamais à sa demande. Elle-même n'avait plus le courage d'en avoir envie. Mais par cette exigence, Brachen lui avait soudain donné un aperçu de ce que son père avait vu en lui. Kyle se tenait devant lui, exaspéré. Du regard, il balaya le cercle de la famille en deuil, mais Althea en était sûre, il avait aussi conscience du cercle plus large des membres de l'équipage, et même des badauds qui s'étaient assemblés sur le quai pour assister à l'éveil d'une vive nef. Pour finir, il décida de ne pas prêter attention aux paroles de Brachen.
« Yémin !» lança-t-il d'une voix qui claqua comme un fouet. « Prends la cheville et éveille ce navire !»
Tous les yeux se tournèrent vers l'adolescent qui blêmit et dont les yeux s'agrandirent. Ses lèvres frémirent, puis il se ressaisit et prit une profonde inspiration. « Je n'en ai pas le droit !»
Il n'avait pas parlé fort, mais sa jeune voix portait.
« Par tous les diables, n'es-tu pas Vestrit autant que Havre? Tu en as le droit. Le navire sera un jour à toi. Prends la cheville et éveille-le. »
L'adolescent regarda son père avec un air d'incompréhension, et quand il répondit, ce fut d'une voix tremblante qui se brisait par instants et montait dans les aigus. « Je suis destiné à devenir prêtre de ça. Un prêtre ne peut rien posséder. »
Une veine se mit à battre sur la tempe de Kyle.
« Je me moque de ça. C'est ta mère qui en a décidé ainsi, pas moi, et je te reprends. Et maintenant, prends la cheville et éveille le navire. »
Tout en parlant, il s'était avancé pour saisir son fils aîné par l'épaule.
Le garçon essaya de ne pas reculer, mais sa détresse était évidente. Même Kefria et Ronika paraissaient choqués du blasphème de Kyle, ce qui n'avait rien d'étonnant. Le chagrin d'Althea semblait s'être mis en retrait, la laissant engourdie mais douée d'une singulière sensibilité. Elle observa ces inconnus qui criaient et se disputaient pendant qu'un cadavre se rigidifiait lentement à leurs pieds. Et une grande clarté envahit son esprit. Avec une certitude absolue, elle sut que Kefria ignorait tout des intentions de Kyle à l'égard de Yémin, et l'adolescent aussi manifestement. Le bouleversement qui se lisait sur ses traits était trop grand alors qu'il regardait l'air égaré la cheville d'un gris soyeux que son père lui mettait de force entre les mains.
« Allons !» ordonna Kyle.
Et comme si l'adolescent avait 5 ans au lieu d'être à l'orée de l'âge adulte, il le fit pivoter sur lui-même et le poussa en avant. Le reste de la famille le suivit, telle des épaves dans le sillage d'un bateau. Althea regarda le groupe s'éloigner, puis elle s'accroupit et prit la main de son père.
« Heureusement que tu n'es plus là pour assister à ça !»
lui dit-elle d'une voix douce. En vain, elle tenta de refermer les paupières du mort sur ses yeux qui ne voyaient plus rien. Au bout de plusieurs tentatives, elle se résigna à laisser son père le regard braqué sur le dais de toile.
« Relevez-vous, Althea !»«
Pourquoi ?» Elle ne se retourna même pas vers Brachen.
« Parce que... »
Il s'interrompit, chercha ses mots, puis reprit.
« Parce que même s'ils peuvent vous dépouiller de l'héritage du navire, cela n'efface pas ce que vous devez à la Vivacia. Votre père m'a demandé de vous aider dans cette épreuve. Il n'aurait pas voulu qu'à son éveil, le navire ne voie que des visages inconnus. »«
Kyle sera là, » répondit-elle d'un ton monocorde. La peine revenait, ressuscitée par les paroles sans fioriture de Brachen.
« Le navire ne le reconnaîtra pas. Il n'est pas du sang de sa famille. » « Allons, venez !»
Elle baissa les yeux sur la dépouille. La mort œuvrait rapidement et creusait dans les traits de son père des rides et des méplats qu'il n'avait jamais eus de son vivant.
« Je ne veux pas le laisser seul. »« Althea, Ce n'est plus le capitaine. Ce n'est que son cadavre. Il est mort. Mais la Vivacia, elle, est toujours là. Venez. Vous savez que vous devez le faire. Faites-le bien. »
Il se pencha et lui dit à l'oreille.
« En avant, jeune fille. L'équipage vous regarde. »
À ces mots, elle se redressa à contre-cœur. Elle observa les plis du visage de son père, essaya de capter son regard une dernière fois. Mais ses yeux ne la voyaient plus. Il ne contemplait plus que l'infini. Elle carra les épaules et releva le menton. « Très bien dans ce cas. » Brachen lui offrit son bras comme s'il l'escortait au bal de présentation de Terrilville. Sans réfléchir, elle posa une main légère sur son avant-bras, comme on le lui avait enseigné, et se laissa conduire vers la proue du navire. L'attitude solennelle de Brachen lui rendit un peu d'énergie. Alors qu'elle commençait à entendre la voix basse et furieuse de Kyle, une étincelle jaillit en elle, comme produite par le choc d'un silex contre l'acier. Il réprimandait Yéma.
Ce n'est pas compliqué. Le trou est là. Voici la cheville et ici le crochet. Pousse le crochet de côté, fourre la cheville dans le trou et lâche le crochet. C'est tout. Je te tiendrai. Comme ça, tu n'auras pas à craindre de tomber dans la baie, si c'est ce qui t'inquiète.
La réponse de l'adolescent fut trop aiguë, encore une fois, mais douce et sans faiblesse. « Père, je n'ai pas dit que je ne pouvais pas le faire, mais que je ne le voulais pas. Je ne pense pas que j'en ai le droit, ni qu'il soit convenable, en tant que serviteur de ça, que je m'approprie ce navire. »
Seul un léger tremblement à la fin de son discours trahit la difficulté du jeune homme à garder son sang-froid.
« Tonnerre, tu vas faire ce que je t'ordonne !» gronda Kyle.
Althea vit sa main se lever, menace classique, d'un coup à venir, et elle entendit Kefria s'écrier d'une voix étranglée.
« Oh, Kyle, non !» En deux enjambées, Althea s'interposa entre Kyle et l'adolescent.
« Ce n'est pas une façon de se conduire le jour de la mort de mon père, et ce n'est pas ainsi qu'on doit traiter la Vivacia. Avec ou sans cheville, elle est en train de s'éveiller. Tenez-vous à ce que les premières choses qu'elle entende soient des querelles et des disputes ?»
Et la réponse de Kyle trahit son ignorance totale de ce qu'était une vive nef.
« Je l'obligerai à s'éveiller par tous les moyens !»
Hors d'elle, Althea s'apprêtait à riposter quand elle entendit Brachen murmurer d'une voix pleine de révérence. « Oh, regardez-la !»
Tous les regards se portèrent vers la figure de proue. Sur le gaillard d'avant, Althea ne distinguait pas grand-chose du visage, mais elle vit la peinture tomber en écailles de la sculpture en bois sorcier. Les boucles de cheveux luisaient d'un noir de jais sous la dorure qui se desquamait, et la chair polie commençait à prendre une teinte rosée. Le grain fin et soyeux du bois sorcier demeurait et subsisterait toujours sans jamais devenir aussi moelleux que la chair humaine, et pourtant, il était manifeste que la vie palpitait à présent dans la figure de proue. Pour la conscience affinée d'Althea, le navire tout entier abordait différemment les vaguelettes du port. Elle imaginait à présent ce que devait ressentir une mère la première fois qu'elle voyait la vie qu'elle avait portée en elle.
« Donnez-moi la cheville !» s'entendit-elle dire d'une voix calme. « Je vais éveiller le navire. »
« Et pourquoi donc ?»
demanda Kyle, l'œil soupçonneux.
Mais Ronica intervint. « Remettez-lui la cheville, Kyle, » ordonna-t-elle sans élever le ton. « Elle va le faire parce qu'elle aime la Vivacia. »
Plus tard, Althea devait se remémorer les paroles de sa mère, et elle devait porter sa colère à son paroxysme. Ronica savait tous ses sentiments, et cela ne l'avait pas empêché de lui prendre le navire. Mais sur l'instant, ce qui comptait était que la Vivacia restait bloquée inconfortablement entre bois et vie. Elle lut de la méfiance dans les yeux de Kyle quand, de mauvais gré, il lui tendit la cheville. Que croyait-il qu'elle allait en faire? La jeter par-dessus bord? Elle prit le morceau de bois et s'avança à plat ventre sur le beau pré pour atteindre la figure de proue. Comme elle n'arrivait pas tout à fait à la toucher, elle gagna encore un cran en chancelant à cause de ses jupes encombrantes, mais elle ne parvint toujours pas à son but.
« Brachen !» fit-elle, et ce n'était ni une prière ni un ordre. Sans même lui jeter un coup d'œil, elle resta sur place en attendant de sentir ses mains la saisir à la taille
et il la fit descendre à la force des bras jusqu'à ce qu'elle pût toucher les cheveux de la vivacia. À son contact, la peinture s'écailla du crochet à ressort. La chevelure de la figure était étrange. Elle cédait sous la main, mais les boucles sculptées demeuraient d'une pièce au lieu de se séparer en cheveux distincts. Un instant, Althea ressentit comme un malaise, puis sa conscience de la vivacia l'envahit plus forte que jamais. C'était comme une chaleur, mais ce n'était pas une sensation épidermique. Ce n'était pas non plus la brûlure de l'alcool dans l'estomac. Cette conscience allait et venait en même temps dans son sang, dans son souffle, dans tout son corps.
« Althea !»
Brachen avait la voix tendue. Elle se ressaisit en se demandant combien de temps elle était restée ainsi, la tête en bas. L'esprit encore embrumé, elle se rendit compte qu'elle avait confié tout son poids à Brachen, et elle tenait toujours la cheville. Elle soupira et sentit le sang battre à ses tempes. D'une main, elle écarta le crochet, et de l'autre, elle fit glisser sans difficulté la cheville dans son logement. Quand elle lâcha le crochet, il sembla disparaître comme s'il n'avait jamais existé. La cheville faisait maintenant partie intégrante de la figure de proue.
« Pourquoi est-ce si long ?»
lança Kyle.
« C'est fait !»
dit Althea dans un souffle, et seul Brachen dut entendre sa réponse. Mais comme sa prise sur elle s'affermissait et qu'il commençait à la remonter, Vivacia se tourna soudain vers elle. Elle leva les bras et ses mains puissantes saisirent celles d'Althea. Ses yeux verts se plantèrent dans ceux de la jeune fille.
« J'ai fait un rêve des plus étranges, » fit-elle avec douceur. Puis elle fit à Althea un sourire à la fois espiègle et joyeux. « Merci de m'avoir éveillée. »
« De rien, » répondit la jeune fille à mi-voix.
« Oh, tu es encore plus belle que je ne l'avais imaginée. »
« Merci, » répondit le navire avec le sérieux sans artifice d'un enfant. Il lâcha les mains d'Althea pour ôter des écailles de peinture de ses cheveux et de sa peau, comme s'il s'agissait de feuilles mortes. Brachen remonta brusquement Althea sur le pont et la remit sur pied sans douceur. Il avait les joues très rouges, et Althea se rendit brusquement compte que Kyle s'exprimait d'une voix basse et venimeuse.
« Et ce pont vous est interdit pour toujours, Trell. « Dès maintenant !»«
En effet, je m'en vais. »
Par le jeu de son timbre de voix, Brachen avait transformé le congédiement de Kyle en un départ dédaigneux.
« Adieu, Althea, » fit-il, sa politesse retrouvée.
Puis, comme s'il quittait une réunion sociale, il se retourna et, d'un ton formaliste, prit congé de Ronica, que son calme parut ébranlé, car même si ses lèvres remuèrent, aucun son n'en sortit. Cependant, Brachen s'éloigna d'un pas léger sur le pont, comme s'il ne s'était rien produit. Avant qu'Althea fût revenue de l'attitude du second, Kyle se tourna vers elle.
« Avez-vous perdu la raison? Qu'est-ce qui vous a prise de le laisser vous toucher ainsi ?»
Elle ferma les yeux, paupières plissées, puis les rouvrit.
« Ainsi ? » fit-elle d'un ton vague.
Elle se pencha par-dessus le bastingage pour observer Vivacia. La figure de proue se tourna pour lui adresser un sourire indécis, comme celui d'une personne mal réveillée lors d'un splendide matin d'été. Althea lui rendit tristement son sourire.
Vous savez fort bien de quoi je parle. Il vous tripotait tant qu'il pouvait. Que vous ressembliez à une souillon est déjà désagréable. Mais vous laissez toucher par un matelot alors que vous êtes suspendu pratiquement la tête en bas.
Il me fallait remettre la cheville en place, et c'était la seule façon d'y parvenir.
Son regard quitta le visage marbré de rouge de Kyle pour se porter vers sa mère et sa sœur.
« Le navire est éveillé, » annonça-t-elle d'une voix basse mais avec solennité. « La vive nef, Vivacia, est à présent consciente. »
« Et mon père est mort. » Elle ne prononça pas ces mots. Mais leur réalité la blessa à nouveau, plus profondément et plus douloureusement. Elle avait l'impression que chaque fois qu'elle s'habituait à sa mort, le fait la frappait encore plus durement que quelques instants plus tard.
« Que va-t-on penser d'elle ?»
chuchota Kyle à Kefria. Les deux petits regardaient ouvertement Althea, tandis que l'aîné, Yémin, détournait les yeux des personnes qui l'entouraient, comme si se trouver près d'elle le mettait affreusement mal à l'aise. Althea, elle, avait le sentiment de comprendre tout ce qui se jouait sur le pont. Trop d'événements s'étaient produits, et trop vite. La tentative de Kyle pour la chasser du navire, le décès d'Ephron, l'éveil du navire, le congédiement de Brashen et à présent la colère de Kyle pour un acte qu'elle devait absolument accomplir. Elle avait l'impression de ne pouvoir tout affronter à la fois. Mais en même temps, elle sentait un vide terrifiant en elle. Elle chercha ce qu'elle avait oublié ou négligé. « Althea ?» C'était Vivacia qui l'appelait d'un ton inquiet. Presque avec un soupir, la jeune fille se pencha sur le bastingage pour la regarder. « Oui ?»« Je connais ton nom. Althea ?»« Oui. Merci, Vivacia. » Et en cet instant, elle comprit ce qu'était ce vide qu'elle ressentait. C'était tout ce qu'elle avait pensé éprouver, la joie et l'émerveillement dans l'éveil du navire. L'instant si longtemps espéré était parti comme il était venu. Vivacia était éveillée, et à part le premier élan de triomphe, elle n'avait rien ressenti de ce qu'elle attendait. Le prix était trop élevé. À la seconde où elle se fit cette réflexion, elle regretta de ne pouvoir l'oublier. C'était la trahison suprême de se tenir sur ce pont, non loin de la dépouille de son père, et de se dire que le prix à payer était trop élevé. Que la vive nef ne valait pas la mort d'Ephron Vestrit, ni de son grand-père, ni de son arrière-grand-père. De plus, c'était une pensée injuste, elle le savait. Avec ou sans navire, il serait mort de toute façon. Vivacia n'était pas la cause de leur trépas, mais plutôt la somme de leur legs. En elle, il continuait à vivre. Althea se sentit un peu apaisée. Elle se pencha par-dessus bord et s'efforça de trouver une phrase d'accueil cohérente à délivrer à cette nouvelle créature. « Mon père aurait été très fier de toi, » dit-elle enfin. Ces simples mots réveillèrent sa peine. Elle aurait voulu poser le front sur ses bras et se laisser aller à pleurer, mais elle se l'interdit de crainte d'inquiéter le navire. « Il aurait été fier de toi aussi. Il savait que cette épreuve serait difficile pour toi. » La voix du navire s'était modifiée. En quelques instants, elle était passée d'un timbre aigu et enfantin à celui riche et rauque d'une femme adulte. Quand Althea regarda son visage, elle y lut une compréhension insupportable, et cette fois, elle ne fit rien pour empêcher ses larmes de couler. « Je ne comprends pas, » dit-elle au navire d'une voix brisée. Puis elle se tourna vers sa famille, qui, comme elle, se penchait sur le bastingage pour observer le visage de Vivacia. « Je ne comprends pas !» répéta-t-elle plus fort, bien que sa gorge nouée l'empêchât de formuler clairement les mots. « Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi, au bout de tant d'années, a-t-il donné Vivacia à Kefria sans rien me laisser ?» Elle s'adressait à sa mère dont le visage exprimait une détresse austère, mais ce fut Kyle qui eut le front de répondre. « Peut-être voulait-il la remettre à des mains responsables ?» Peut-être voulait-il la confier à quelqu'un qui s'était montré digne de confiance, solide, et qui ne s'occupait pas seulement de soi-même.
« Ce n'est pas à vous que je parle !»
hurla Althea d'une voix suraiguë.
« Vous ne pouvez donc pas vous taire !»
On eût dit un enfant hystérique, elle le savait, et cela lui faisait horreur. Mais elle avait eu trop à supporter ce jour-là. Elle ne se maîtrisait plus. Si Kyle lui adressait encore une fois la parole, elle se jetterait sur lui pour le réduire en morceaux.
« Silence, Kyle !»
ordonna Ronica d'un ton ferme.
« Althea, reprends-toi. Ce n'est ni l'heure ni le lieu pour ce genre d'exhibition. Nous parlerons de tout cela plus tard, à la maison, entre nous. D'ailleurs, il faut que j'en discute sérieusement avec toi. Je souhaite te faire comprendre les intentions de ton père. Mais pour le moment... « Nous devons nous occuper de sa dépouille et de la présentation officielle du navire. Les marchands et les autres vivenefs doivent être mis au courant de la mort d'Ephron. Et il faut louer des bateaux, les sortir de la baie et assister à ses obsèques en mer. Et... Althea ! Althea, reviens ici tout de suite !»
La jeune fille ne se rendit compte qu'elle s'était éloignée à grands pas qu'en entamant la descente de la passerelle. Elle était passée près du corps de son père sans même le remarquer, et ce qu'elle fit alors, elle devait le regretter toute sa vie. Elle quitta Vivacia. Elle ne l'accompagna pas lors de son voyage de baptême, pour voir le corps de son père glisser dans l'eau loin du port. Elle ne pensait pas pouvoir supporter de voir ses pieds attachés à l'ancre de rechange et son corps enveloppé de toile passer par-dessus bord. Par la suite, elle devait avoir des remords de ne pas avoir été présente pour lui faire ses derniers adieux. Mais sur l'instant, elle savait seulement ne pas pouvoir endurer la vue de Kyle un moment de plus, et encore moins entendre sa mère débiter des horreurs d'un ton raisonnable. Elle n'eut pas un regard pour l'effarement qui s'était peint sur les visages des membres d'équipage, ni pour Kefria qui s'accrochait désespérément au bras de Kyle pour l'empêcher d'aller la ramener de force. Elle ne supportait pas l'idée de voir Vivacia quitter le quai avec Kyle comme capitaine. Elle espérait que le navire comprendrait. Non, elle était sûre qu'il comprendrait. Voir Kyle commander le navire de famille lui avait toujours répugné. À présent que Vivacia était éveillée et consciente, cette idée lui faisait encore plus horreur. C'était pire qu'abandonner un enfant aux mains de quelqu'un qu'on méprise, mais elle savait aussi qu'elle n'y pouvait strictement rien. Pour le moment, en tout cas. L'agent maritime occupait un petit bureau sur les quais. Il avait été légèrement étonné de voir Brashen se pencher sur son comptoir, son sac de marin sur l'épaule.
« Oui ?» fit-il d'un ton poli et sérieux.
À part lui, Brashen songea que l'homme lui évoquait un moine copeau bien élevé, probablement à cause de la barbe qui lui remontait sur les joues et de la façon dont il se redressait brusquement avant de parler.
« Je suis venu chercher ma paix, » dit-il à mi-voix.
L'homme se tourna vers une étagère et étudia plusieurs livres avant d'en prendre un plus épais que les autres.
« J'ai entendu dire que le capitaine Vestrit avait été porté à bord de son navire, »
fit-il d'un ton circonspect tout en suivant du doigt une colonne de noms. Il leva les yeux vers Brashen.
« Vous faites partie de son équipage depuis longtemps. J'aurais cru que vous voudriez rester avec lui jusqu'à la fin. »
« C'est ce que j'ai fait, » répondit Brashen. « Mon capitaine est mort. La Vivacia appartient désormais au capitaine Havre et nous ne nous aimons guère. J'ai été réformé. »
L'agent fronça les sourcils. « Mais c'est sûrement sa fille qui va prendre le commandement, non ? Celle que le capitaine a prise sous son aile depuis des années, la plus jeune, Altea Vestrit. »
Brashen émit un bref grognement. « Vous n'êtes pas seul à vous étonner qu'il en soit ainsi. Maîtresse Vestrit en est aussi, à son grand bouleversement et pour son plus grand chagrin. »
Soudain, prenant brusquement conscience qu'il avait trop évoqué les douleurs de chacun, il ajouta
« Je suis venu chercher ma paix, monsieur, pas pour colporter des potins sur mes supérieurs. Je vous prie de ne prêter nulle attention aux paroles d'un homme en colère. »
« Très bien, je n'en tiendrai pas compte, » l'assura l'agent.
Il se redressa, une cassette entre les mains, et déposa trois petits tas d'argent sur le comptoir devant Brashen. L'ancien second les regarda. C'était considérablement moins que ce qu'il touchait quand il était au service du capitaine Vestrit. Ma foi, ainsi allait la vie. Il se rappela tout à coup qu'il avait une autre demande à formuler. « Il me faut aussi une confirmation de second, » dit-il à voix lente. Il n'avait jamais pensé en avoir besoin en descendant de la Vivacia. Et d'ailleurs, il avait jeté toutes ses anciennes cartes plusieurs années plus tôt, convaincu de n'avoir plus jamais à démontrer ses compétences à quiconque. Il regrettait aujourd'hui de ne pas les avoir conservées. C'étaient de simples étiquettes de cuir avec en bosse le tampon du navire, le nom du marin gribouillé et parfois sa position qui prouvait qu'il avait exécuté ses devoirs de façon satisfaisante. Une poignée de ces étiquettes lui aurait permis de trouver un nouveau poste beaucoup plus facilement. Mais même une seule confectionnée sur une vive nef aurait eu du poids à Terville.
« Vous devez vous procurer une de ces fiches auprès du capitaine ou du second, » fit l'agent maritime.
« Ça m'étonnerait. »
Brashen éprouvait soudain l'impression d'avoir été dépouillé. Il avait bien travaillé à bord du navire pendant des années et il ne disposait que de ses petits tas d'argent pour le prouver. L'agent s'éclaircit brusquement la gorge.
« Pour ma part, je sais parfaitement que le capitaine Vestrit vous estimait beaucoup, vous et votre travail. S'il vous faut une recommandation, ne vous gênez pas pour envoyer le demandeur à mon bureau. Je m'appelle Neil Hachette.
Je veillerai à ce qu'on vous confie un bon poste.
Merci, monsieur, répondit Brashen d'un ton humble. Cela ne valait pas une étiquette, mais c'était au moins quelque chose.
Il prit un moment pour s'emparer des pièces, une partie dans sa bourse, une autre dans sa botte et la troisième dans le mouchoir serré autour de son cou. Inutile de permettre à un voleur à la tire de tout lui dérober d'un coup. Puis, avec un grognement, il remit son sac de marin à l'épaule et quitta le bureau. Il avait dressé mentalement la liste de ce qu'il devait faire. D'abord, trouver une chambre dans une maison en meublé pas trop chère. Avant, il vivait à bord de la Vivacia même quand elle était à quai. À présent, toutes ses possessions se trouvaient dans le sac qui ballottait sur son dos. Ensuite, il se rendrait chez un banquier. Le capitaine Vestrit l'avait assez souvent incité à mettre de l'argent de côté à chaque voyage. Mais il n'en avait jamais tenu compte. Quand il naviguait avec Vestrit, son avenir lui paraissait assuré. Aujourd'hui, il regrettait amèrement de n'avoir pas plus tôt suivi son conseil. Eh bien, il allait commencer dès maintenant et il n'oublierait pas cette dure leçon. Et après ?
Ma foi, il allait profiter de toute la nuit au port avant de chercher un nouvel emploi. De la viande fraîche, du pain nouvellement cuit et une nuitée de bière et de bonne camaraderie dans les tavernes. Ça savait qu'il avait bien mérité quelques menus plaisirs lors de son voyage, et il avait bien l'intention de les savourer. Demain, il serait bien assez tôt pour s'inquiéter de la suite de son existence. Il éprouva un instant de honte à l'idée des réjouissances qui l'attendaient alors que son capitaine était mort. Mais jamais Kyle ne le laisserait remonter à bord pour rendre ses derniers hommages à Efron Vestrit. Le mieux qu'il pouvait faire pour son capitaine était de ne pas jouer les éléments discordants durant ses funérailles. Qu'il s'enfonce dans la mer depuis un pont paisible. Ce soir, Brashen boirait chacune de ses chopes à sa mémoire. Ce serait sa façon personnelle de lui rendre hommage. D'un pas décidé, il se dirigea vers la ville. Mais alors qu'il sortait de l'ombre du bureau, il aperçut Althea qui descendait vivement la passerelle, l'air furieux. Elle suivit les quais à grandes enjambées, si bien que ses jupes flottaient derrière elle comme des voiles déchirées pendant une tempête. Son visage était sillonné de larmes, ses cheveux en désordre, et ses yeux noirs brûlaient d'une colère presque effrayante. Des têtes se tournèrent pour la regarder passer. Gémissant à part lui, Brashen accrocha fermement son sac sur son épaule. Il avait promis de veiller sur elle. Avec un gros soupir, il la suivit.